Alors, on va lire un verset dans Deutéronome qui indique à chacun ce qu'il doit faire. Deutéronome, chapitre 4, verset 9, c'est demander à tous les hommes. À tous les hommes, il est dit ceci. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Donc c'est un commandement de Dieu bien sûr, où il demande à chacun, à chacune, de veiller attentivement. Alors je vous encourage moi à prendre un dictionnaire parce que je me suis rendu compte que beaucoup de croyants ne savent pas la signification des mots. Et comme dans le cadre d'une prédication, on peut absolument pas tous les expliquer, c'est quelque chose que l'on peut faire dans le cadre d'un culte personnel, de prendre un mot et de regarder. Aujourd'hui, c'est facile, tout le monde pourrait ainsi dire à Internet, donc on a tous des concordances, tous des dictionnaires. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Ce sont des choses que Jésus répète, presque en boucle, dans les évangiles, où il nous demande de veiller et de prier afin que nous ayons la force d'échapper à tout ce qui va arriver sur la surface de la terre. Dans le livre des Hébreux, il y a un autre texte où il est parlé de veiller. Mais ça, ce n'est plus indiqué aux chrétiens. Regardez avec moi Hébreux chapitre 13, verset 17. Un chrétien doit veiller, il doit s'édifier lui-même. Ça peut arriver d'être dans des conditions difficiles, d'avoir, là je le dis sérieusement, je ne parle pas du surpour Michael, mais ça peut arriver d'avoir un mauvais pasteur, oui ou non? Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Il ne faut pas se voiler la face, on peut avoir un mauvais pasteur. Mais il n'empêche qu'on a tous quand même le même Seigneur, on a tous la même Bible, et que l'on peut s'appliquer soi-même à s'édifier sur sa très sainte foi, comme dit l'auteur de l'Épître de Jude. Dans Hébreux, au chapitre 13, au verset 17, il est demandé ceci. « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » Vous voyez, d'un côté, on voit bien que Dieu demande à chacun de veiller. Vous êtes d'accord? Et de l'autre, il est demandé aux serviteurs de Dieu d'appuyer ce travail d'une façon beaucoup plus complète, bien sûr, d'une façon beaucoup plus profonde. Je veille sur mon âme, je lis la parole, je comprends pas tout, mais je peux veiller tout seul. Mais en même temps, Dieu demande aux serviteurs de veiller sur les âmes des chrétiens qui leur sont confiées. Ce matin, en l'occurrence, c'est moi qui ai cette responsabilité, cette joie, mais c'est surtout une responsabilité, même si à la joie, c'est clair. Quand on est avec Dieu, on a cette joie du salut, mais c'est pas, ça suffit pas. Il faut également comprendre qu'il y a des responsabilités. Il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Et je me souviens de ce jour, il y a peut-être 20 ans en arrière, où j'avais peut-être préparé une prédication avec un peu de légèreté. Et le Seigneur m'a repris, m'a dit, tu sais, tu rendras compte pour toutes les prédications. Mais j'ai compris ce jour-là que le salut des âmes, c'est sérieux. Aller à l'église, c'est une chose. Chanter des cantiques, de beaux cantiques, c'est une chose. Se promener avec la Bible sous le bras, c'est une chose. Mais être prêt à rencontrer le Seigneur, c'est autre chose. Et vous savez, depuis le temps que j'exerce mon ministère, je me rends compte de plus en plus qu'on peut être dans une église, chanter des cantiques, prendre la Sainte Cène, croire qu'on est en communion avec Dieu parce qu'on prend la Sainte Cène, et en même temps être très léger au niveau de sa vie spirituelle. Et pour introduire, c'est mon introduction, mais pour introduire ce sujet, je voudrais lire avec vous un texte que Jésus utilise cette fois. C'est un texte d'une grande sévérité. C'est vrai que Dieu est fidèle. On fait mention dans leur prière de la fidélité de Dieu, et c'est vrai qu'il est fidèle. Mais ce n'est pas parce que Dieu est fidèle que nous le sommes. Et ma question ce matin, c'est de vous amener à ce point où vous pouvez dire en sortant, oui, je suis prêt à rencontrer Dieu. Je suis prêt pour l'enlèvement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Il y a des pasteurs qui ne sont pas prêts. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on est prêt. Est-ce que parce que je prêche ce matin, voilà, je vais prêcher, vous allez m'écouter pendant... Combien de temps j'ai le droit de prêcher? 2 heures? Bon, pendant 2 heures, donc je vais prêcher. Ça vous va? Non? Allez, on va écourter, 3 quarts d'heure. Est-ce que parce que je prêche, vous avez la preuve que j'obéis à Dieu? Eh non. Je peux bien prêcher et ne pas pour cela être prêt. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le don que j'exerce, quel qu'il soit, qui fait que je suis prêt. Je suis pas prêt parce que je prêche l'évangile, parce que j'exerce un ministère que Dieu m'a confié, quel qu'il soit, un service. Je suis prêt parce que j'obéis à Dieu. Alors, dans l'évangile de Matthieu, le premier texte où Jésus utilise une expression terrible, pour moi elle est terrible, c'est dans Matthieu, alors que je ne me trompe pas, c'est au chapitre 8, lorsque Jésus guérit un serviteur d'un centenier, le guérit d'une manière extraordinaire. Vous connaissez tous la guérison du serviteur du centenier, cet homme... Cet officier de l'armée qui va exprimer une foi dans la puissance de Dieu. Et on va lire Matthieu chapitre 8, verset 10. Matthieu chapitre 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Dont le texte aurait pu s'arrêter là, ou à la limite au verset 11, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Regardez ce que Jésus ajoute. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et cette expression, qui n'est utilisée que par Jésus, vous pouvez lire l'évangile, faites-moi confiance. Cette expression, elle revient 7 fois dans les évangiles, 6 fois dans l'évangile de Matthieu et 1 fois dans l'évangile de Luc. Il n'y a que Jésus qui l'utilise. Une expression qui nous fait réfléchir, c'est obligé quand même. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des paroles, elles vous arrêtent. Il y a des paroles, bien sûr, que sur l'amour, sur la bonté, ça c'est sûr que c'est facile pour nous arrêter. Mais n'oubliez pas que Jésus n'est pas que bon. Il est saint. Dieu n'est pas que bienveillant. Dieu n'est pas qu'amour. Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu demande de la sainteté, car sans la sainteté, nous ne verrons pas le Seigneur. Donc Jésus est en train de faire quelque chose de merveilleux. Il honore la foi d'un étranger. C'est un centenier, c'est un militaire, c'est un romain. Les juifs sont pas du tout contents parce que Jésus va mettre en avant la foi de cet homme et il va discréditer la leur qui ne vaut plus rien. Et le contexte, alors c'est bien de prendre ces 7 textes sur les pleurs et les grincements de dents. Je vous encourage à le faire parce que bien, vous comprenez bien qu'on n'aura pas le temps ce matin, même si on me donnait 2 heures, j'aurai pas le temps de le faire. Mais nous pouvons le faire, pourquoi? Parce que moi je dois veiller, mais vous aussi, c'est de votre ressort de veiller. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Ce sont des commandements, il ne faut pas rire avec ces commandements. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté dans l'église. Je ne parle pas de l'église Moissac, je ne vous connais pas. Mais dans l'église en général, il y a beaucoup de légèreté. Et si Dieu dit « Veille attentivement sur ton âme », moi je vous dis « Faites-le. Faites-le. » Ne me dites pas, comme je l'entends souvent, d'ailleurs je refuse maintenant ces entretiens, mais j'ai pas le temps, vous comprenez. Ce n'est pas vrai. Si vous n'avez pas le temps de veiller sur votre âme, c'est que vous vous en fichez. Moi, j'ai pas le temps de faire de la couture. Vous pouvez me payer des cours de couture, vous pouvez me payer la machine Singer que vous voulez. Ça ne m'en servirait pas. Il doit y avoir des machines à des milliers d'euros, j'en sais rien, ça m'est égal. Elle va rester dans le garage, voilà. Et si vous me dites, mais la couture, ben, je n'ai pas le temps. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ce que Dieu nous demande, de toute façon, c'est imparable. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, on a le temps de le faire. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre âme, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de valeur, votre âme. Il ne faut pas oublier que notre âme, elle est éternelle. Et que nous serons soit avec Jésus-Christ, soit en enfer. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et quand Jésus indique ces choses, elles sont là, elles sont dans les évangiles, c'est la vérité. C'est plein d'amour en plus. C'est plein d'amour. Jésus dit, les filles, ils parlent, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a des gens qui lisent pas, il y a des gens, ils sont vraiment pas bien. Ça, c'est pour les païens. Non, il est dit, les fils du royaume. Vous l'avez comme moi dans votre version, le 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Alors, c'est quoi le contexte? Parce que quand on lit la Bible, voilà, vous veillez, mais je vous enseigne à veiller. C'est ce qu'on vient de lire en introduction. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais quels sont ces chrétiens qui ne connaîtront pas la grâce de Dieu? Eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas une vraie foi. Vous allez me dire, mais si, monsieur Gros, je crois en Dieu, mais je ne vous demande pas si vous croyez en Dieu. C'est clair que si vous êtes ici, c'est que vous croyez en Dieu. Mais les démons, ils croient aussi. Est-ce qu'ils croient, les démons? Et ils sont où? Ils iront où, les démons? Ils croient, ils tremblent même. Ils tremblent parce qu'ils savent ce qui les attend. Mais je vous demande pas si vous croyez. Si vous êtes ici, il y a quand même de fortes chances que vous croyez. Je me doute. Oui ou non? Mais le problème, c'est pas est-ce que vous croyez en Dieu? C'est merveilleux de croire en Dieu. Mais ça suffit pas. Dieu n'a pas dit, bon, vous croyez, ça suffit. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si Dieu avait dit, la croyance, ça suffit, mais moi, je vous aurais dit, eh ben, la croyance, ça suffit. La croyance, ça ne suffit pas. Dieu veut une véritable foi. Et ce texte, il est là, il indique qu'il doit y avoir dans le cœur des chrétiens une véritable foi. Cette foi, elle vient de la parole, cette foi, elle est agréable à Dieu, cette foi, elle fait que quand je prie, eh bien, je sais que Dieu me voit. C'est écrit ça, quand tu pries, Dieu te voit dans ta chambre. Il t'entend. Il fait pas que t'entendre, bon, ça, pour que Dieu entende, c'est évident. Mais il te voit, c'est-à-dire, il voit comment tu pries. Il voit si on prie pour prier, on peut prier comme les païens, on peut prier comme les hypocrites, on peut prier parce qu'on nous dit en boucle à l'église, il faut prier, alors je prie, alors je prie, j'ai 5 minutes, je prie pour Pierre, pour Paul, pour l'église, pour le pasteur, je prie Seigneur, mais c'est pas ça que Dieu demande. Bien sûr qu'il faut déposer ses fardeaux, mais la foi, c'est cette vraie confiance, cette foi, quand la Bible dit « j'ai gardé la foi », ça veut dire que j'ai obéi. D'ailleurs, il y a un texte qui me vient à l'esprit, c'est dans les actes. Regardez avec moi ce verset. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est pas la croyance. Dans Actes au chapitre 6, c'est ces gens qui avaient vociféré « crucifie », tous ces sacrificateurs qui étaient remplis de haine. Quand le réveil est venu sur Jérusalem, il est dit, regardez ce qu'il dit, Actes 6, verset 7. Acte 6, verset 7. Regardez s'il est beau ce texte. Elle est magnifique cette parole. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs. Vous voyez quand Dieu agit? Ces gens qui étaient méchants. Une grande foule. En plus, c'est pas dit 3 ou 4. Une grande foule de sacrificateurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment vous avez écrit? Ils obéissaient à la foi. Ils croyaient, bien sûr que les sacrificateurs y croyaient, mais ils se sont mis à obéir. Et la foi, c'est l'obéissance. Et c'est grave parce que dans plein d'églises, il y a des gens qui viennent, ils n'obéissent pas. Et quand la Bible dit que Jésus revient chercher ceux qui l'attendent, mettez-vous bien en tête qu'il revient chercher ceux qui l'attendent dans l'obéissance. Les 10 vierges, est-ce qu'elles attendaient le maître? Les 10 vierges, c'est une prophétie. C'est pas une parabole. C'est d'abord une prophétie. Jésus dit, il en sera de même. Vous savez, nous, des fois, on a du mal à séparer ce qui est enseignement, ce qui est exhortation, avertissement, prophétie. La parabole des 10 vierges, c'est d'abord une prophétie. C'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, il y en a la moitié qui sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'il y en a la moitié qui s'imaginent que attendre Jésus, ça suffit. Non. Il faut l'attendre dans l'obéissance. Et moi, je vous assure que je suis là, je dois veiller sur votre âme. C'est ma responsabilité ce matin. Parce que je vais rendre compte de cette prédication. Vous le croyez? Je l'enseigne ça, je ne te l'ai pas enseigné. Je rendrai compte pour cette prédication. Et moi, j'ai pas envie que Dieu me dise, t'as prêché une fois à Massaka, trois fois en 30 ans, et tu t'es loupé. Moi, j'ai envie d'honorer le Seigneur. Et vous devez savoir, lorsque vous sortirez de ce temple, vous devez savoir si vous êtes prêt, oui ou non, à rencontrer le Seigneur. Et si votre foi, elle est superficielle, ça va mal se passer. C'est pour cela qu'il faut dire, mais ce matin, Seigneur, bien sûr, on est venu te louer, chanter des cantiques, nous t'adorons, tout ça, mais l'adoration, c'est pas conjuguer le verbe adorer. L'adoration, c'est l'obéissance. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est pas conjuguer, je t'adore, et nous t'adorons à la première, ou à la première personne du singulier, ou à la première personne du pluriel. Adorer Dieu, c'est vraiment, d'ailleurs, Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. C'est quoi en esprit et en vérité? Eh bien, ça veut dire que j'obéis. C'est ça les adorateurs. Vous pouvez ne jamais dire « je t'adore » et être un adorateur en boucle. Parce que 24 heures sur 24, vous obéissez à Dieu. Et là, vous êtes un adorateur. Et vous pouvez conjuguer le verbe « adorer » tant que vous voudrez. « Seigneur, je t'adore, Seigneur. Mais tu vois, Seigneur, je peux pas m'empêcher de regarder les cochonneries à la télé. » Mais vous n'êtes pas un adorateur. Vous êtes un pécheur. Vous pouvez prier tant que vous voulez. La seule prière que Dieu exaucera, c'est « Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mon péché et j'arrête. » Mais la repentance, c'est quelque chose de sérieux. Et ces textes-là, ils n'ont pas été laissés pour nous faire peur. Ces textes-là, ils ont été laissés par le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Moi, j'aurais pas mis ça, enfin, j'aurais pas vu, je sais pas. Mais Jésus l'a dit, donc il faut le dire. Est-ce que vous vivez par la foi, c'est-à-dire par l'obéissance? Et si vous prenez les sept textes, ça vaut la peine. On peut prendre le prochain qui me vient à l'esprit, c'est dans Matthieu 22. C'est des textes que je connais par cœur. Je me suis appliqué, et s'il le fallait, à genoux pour les comprendre. Dans la parabole du festin des noces, c'est une parabole qui nous parle justement du jour où on va être enlevé parce qu'on aura accepté l'invitation. C'est merveilleux, l'invitation. Oui ou non? On est invité. Le Seigneur invite tous les hommes. Tous les hommes sont invités. Tous. Tous les hommes sur la surface de la terre, au travers de tous les siècles, auront été invités. On accepte, on n'accepte pas. Dans ce texte, il est souvent fait mention de ceux qui ne s'inquiètent pas de l'invitation. Donc, voilà, on prêche souvent l'évangélisation, ces gens qui ne s'inquiètent pas de l'invitation. Mais la conclusion de cette parabole, c'est quelqu'un qui a accepté l'invitation. Il a accepté l'invitation. On y va? Matthieu 22, verset 11. C'est le quatrième texte, ça. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, c'est quelqu'un qui a accepté l'invitation. Tenez-vous bien. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, je répète, c'est Jésus qui parle. C'est le maître du ciel et de la terre. « Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Oui, il y a beaucoup d'appelés. Dieu vous appelle. Ce matin, la prédication, vous pourrez la disséquer comme vous voulez. C'est un appel à revenir ou à venir, si vous n'êtes pas encore baptisé, ou si vous n'êtes pas encore chrétien, ou si vous n'êtes pas encore repenti, à venir ou à revenir. Cette parabole, là c'est une parabole, qui nous parle comment les choses vont se passer. Il y a ceux qui n'acceptent pas l'invitation. Bon, mais ça, c'est sûr, on est désolé. Mais Dieu ne force personne. Et puis, il y a ceux qui acceptent l'invitation, mais qui n'acceptent pas les conditions. Cet homme, il a accepté l'invitation, c'est bien. Bien sûr, il accepte de rentrer dans l'église. C'est l'image. Mais il y a une condition. C'est l'habit de noces. Et l'habit de noces, c'est quoi? Eh bien, comme vous savez, c'est la sainteté. Ce vêtement blanc est l'image de la sanctification. Et il y a des chrétiens qui, je le répète, moi je le sais, combien de fois j'ai dû le dire. Mais si vous saviez, depuis 33 ans, je vois combien de gens, j'ai dit, mais vous êtes dans l'église, vous vivez dans le péché. Et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Ah, mais Dieu voit mon cœur. Ben oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr que, en plus, les gens, ils s'autorisent à dire, mais pour vous dire la gravité. Les gens, ils vous disent, mais Dieu voit mon cœur. Je dis, oui, Dieu voit que ça va pas du tout. Il y a du sérieux La piété, c'est quoi la piété? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Exerce-toi à la piété. Est-ce que c'est demandé de nous appliquer à travailler à notre salut? Est-ce que c'est écrit? Eh oui, c'est écrit. Et c'est pour ça qu'on est là. Et bien sûr que moi j'aimerais qu'apporter que des choses peut-être plus intéressantes, mais si Dieu m'a mis à cœur ce texte, c'est qu'il y a peut-être, il y a quelqu'un ce matin, au moins j'espère qu'il y en a qu'un, mais qui est concerné par cette prédication et qui doit s'appliquer à retrouver une véritable foi, à veiller sur votre âme, tous les jours. Bien sûr, si vous sautez un jour, c'est pas grave, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Mais comme vous savez, quand les gens ils commencent à ne pas lire la Bible un jour, puis après, bon, j'ai pas le temps, bon, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, moi la Bible, monsieur Gaulle, je la lis avec vous le dimanche. Eh bien, j'ai dit, vous la lirez pas longtemps. Tout content, il me disait ça. Il l'ouvrait pas de la semaine, la parole de Dieu. J'ai dit, vous la lirez pas longtemps, vous inquiétez pas. Vous savez qui on est pour se permettre de tronquer la parole? Si Dieu dit veille attentivement sur ton âme tous les jours, moi je vais vous dire, il vaut mieux écouter. Oui ou non? Il faut être sérieux, mes frères et sœurs. Nous voulons voir la gloire de Dieu et nous ne sommes pas capables de répondre, d'être attentifs à ses commandements. C'est Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, qui est mort sur le bois de la croix. Il parle et il dit, voilà, il le dit, ses serviteurs, jetez-le dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas de communion avec Dieu, lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'il n'y a pas de sainteté, je l'ai dit tout à l'heure, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul, ça veut c'est pas ça, c'est facile à comprendre, ça veut dire personne. Que ce soit, si c'est un pasteur qui ne se sanctifie pas, eh bien, il verra pas le Seigneur. Des fois, les gens disent, oui, celui-ci, oh, qu'est-ce qu'il fait bien, oh, il joue bien de la musique, c'est un bon, mais c'est pas pour ça qu'il obéit. Moi, je vous demande pas si vous prêchez bien. Moi, comme Michael prêche bien, j'espère qu'il fait des progrès dans la prédication, Michael. Il fait des progrès dans la prédication? Moi, bon, c'est bien, Michael. Mais ça suffit pas. Moi, j'espère qu'il va faire des progrès. Et je le sais qu'il devrait faire des progrès. Maintenant qu'il est parti de Sainte-Agne. Mais, mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est qu'il obéisse. Moi, c'est ça qui est important. Et un chrétien, il dit, voilà, mais je dois m'appliquer à la sainteté. Est-ce que c'est sérieux, la sainteté? La sainteté, c'est pas à l'église. Ben, l'église, c'est facile d'être saint à l'église. Est-ce que c'est facile d'être saint à l'église? Ben, bien sûr, c'est facile d'être même de marcher en sainteté. Il y a des gens à l'église, alléluia, même quand ils prient, merci Seigneur, tout ça, ils ont un vocabulaire. Puis c'est bizarre, comme à la maison, ou le lendemain au boulot, le vocabulaire change. Vous savez comment ça s'appelle, ça, dans la Bible? Des hypocrites. Hein? Si vous êtes pieux à l'église, et si demain vous blaguez avec des blagues salaces au boulot, vous êtes un hypocrite. Hein? Il y a un autre texte pour les hypocrites. Ça fait, c'est complet, croyez-moi. Que les hypocrites, ils irriteront pas le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis. Et je vous assure, si Jésus a dit ces choses, c'est pour que nous soyons sérieux avec sa parole. Celui qui ne se sanctifie pas, celui qui ne se revêt pas de sainteté. Pourquoi le gars, il n'a pas voulu un habit de noces? Parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent que leur truc à eux, ça suffit. Mais je vais à l'église tous les dimanches, vous voyez, leurs ailes, ou alors les œuvres. Il y a des gens, ils pensent qu'avec les œuvres, ils sont sauvés. Donc, ils n'ont pas besoin d'un habit, de revêtir Christ. Eux, ils font, moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, ça fait 40 ans que je donne ma dîme tous les dimanches. Vous comprenez, Dieu le voit. Oui, mais c'est bien, faites-le, Dieu le demande. Mais ça ne remplacera jamais la sainteté. C'est sûr que quelqu'un qui vit dans l'obéissance, quelqu'un qui vit dans la sainteté, il fera tout ce que Dieu lui demande, avec beaucoup de joie. Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux. Et moi, je vous assure, mais moi, c'est une chose qui m'a choqué. J'étais catholique, bon, pas très pratiquant. J'allais à la messe de temps en temps. Je me moquais plus de ce que je voyais parce que c'était la tradition de la famille. Mais moi, quand je me suis converti, parce que je me suis vraiment converti et repenti, quand je suis rentré dans l'église évangélique, moi, je pensais que tout le monde obéissait à Dieu. J'étais sûr, moi. Et puis, au bout de quelques semaines, j'ai vu. Ça faisait 3 semaines que j'étais converti, j'étais pas vieux. Je me suis rendu compte qu'il y a des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole. Alors, tant que j'étais chrétien, ça allait. Mais une fois que je suis devenu pasteur, je me suis rendu compte de la responsabilité qui était la nôtre de faire en sorte que les gens veillent sur leur âme. Parce que ces textes, ils sont implacables. Je parlais de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un peu plus loin. Mais vous prenez-les ces textes, ça vaut vraiment la peine. Avec une, écoutez, aujourd'hui, vous tapez concordance biblique sur Google, tout, vous savez, quand on veut trouver un truc sur Google, on le trouve. De suite. Moi, l'autre jour, je voulais savoir combien, parce que j'ai vu que la Terre mettait, vous savez que la Terre, elle met un an pour faire le tour du Soleil. On le sait, ça. On l'a appris à l'école et tout. Et je me suis dit, mais combien ça fait de la vitesse de la Terre? Et j'ai regardé, c'est vite fait. C'est vite fait, vous tapez sur Internet, tac, tac, tac. Ça m'a pris 10 secondes. 460 millions de kilomètres. Pour que la Terre fasse le tour du Soleil en un an, la Terre tourne à 29 kilomètres 76 par seconde. Ça fait que la Terre ne tourne à 30 kilomètres seconde autour du Soleil. Ça va vite. Quand on veut savoir quelque chose, on le sait. Que vous ne sachiez pas ça, c'est pas grave. Si vous ne retenez pas ça, c'est pas grave. Ça, si vous ne retenez pas, ça m'est égal. Mais quand, je vous dis ça pour vous dire que quand on veut savoir quelque chose, on le sait. Et si vous tapez concordance biblique, vous tapez pleurs et grincements dedans, vous allez avoir, tac, les 7 textes. Et vous pouvez dire, bon, Monsieur Gau, il veille sur nos âmes. C'est bien, mais moi aussi, je vais veiller attentivement sur mon âme, tous les jours de ma vie. Ça, en plus, le prochain, ça s'adresse c'est dans Matthieu 24, ça s'adresse justement à ceux qui sont chargés de nourrir. Donc, c'est les moniteurs de l'école du dimanche, ceux qui font chanter, ceux qui présentent la Sainte-Seine, ceux qui nourrissent les chrétiens, ceux qui donnent du pain. Matthieu, ce que je fais en ce moment. Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Voilà, c'est ce qu'on fait. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il lui mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans le contexte de ce rappel sur les pleurs et les grincements de dents, c'est l'hypocrisie. Et dans le royaume de Dieu, on est honnête, on est vrai. C'est pas vrai? Voilà. À quoi? Parce que Dieu, il regarde, il vous regarde. Est-ce que Dieu vous voit là, en ce moment? Vous, peut-être, vous me regardez à moi, parce que je prêche. Mais Dieu, il vous regarde. Hein. Il vous voit dans quel état vous êtes. Il le voit dans quel état je suis. Oui ou non? Et c'est pour ça que je dis, mais Seigneur, tu m'as confié une responsabilité. Je suis dans l'église, je m'occupe de la musique, je suis dans l'administration de l'église. C'est une responsabilité, l'administration de l'église. Une grosse responsabilité. Par exemple, sur Sainte-Agne, on a fait des choix, par exemple, on continue, je ne sais pas si vous êtes au courant, à vous aider. Oui ou non, vous le savez? Donc, on le fait. Pour moi, c'est une immense responsabilité, l'argent de l'Église. D'aider pour la formation de M. Fontaine, d'aider pour les déplacements de M. Roussel, etc. Bon, on le fait avec cœur, mais c'est une archi-responsabilité pour moi, tout ça. Parce que ça va loin, cette histoire, puisque Jésus va jusqu'à dire que celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de ses serviteurs, vous connaissez ce texte, ça va loin, les récompenses dans la Bible par rapport à la fidélité, etc. Pour moi, c'est archi-important, l'argent de l'Église, par exemple. Si vous êtes dans le conseil d'administration, vous devez avoir ce souci de prier pour les offrandes, d'en faire un sujet de prière, de vivre justement dans la sainteté. Quand on est dans un conseil d'administration, est-ce qu'on doit vivre dans la sainteté? Ben oui, sinon ça fait obstacle à la prière. Et chacun doit veiller, on doit veiller l'un sur l'autre, parce qu'on doit veiller sur son âme. Moi, je dois veiller sur la vôtre, mais on doit veiller les uns sur les autres. Est-ce que c'est écrit ça aussi? Et on doit avoir ce courage de dire, mais attention. Moi, si vous saviez le nombre de gens, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Combien, il y a des gens qui acceptent, mais il y a une personne sur cinq qui accepte les reproches. Le reste, vous faites un reproche, paf, il s'en va. Et tu l'as vu? Moi, ça fait 33 ans que je suis pasteur. Depuis 33 ans, j'ai dû faire je ne sais pas combien de reproches des gens. Presque tous sont partis. Et pourtant, c'était des choses vraies. Après, il y en a qui reviennent, Monsieur Gau, vous aviez raison de ça. Surtout que nous, on ne fait pas des reproches pour faire des reproches, parce qu'on a envie de faire des reproches, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Quand on fait un reproche à quelqu'un, c'est qu'on a vraiment vérifié qu'il n'obéissait pas à Dieu. Et c'est parce que Dieu l'aime. Mais mes frères et sœurs, vous avez vu ce texte? Il parle des serviteurs. Et si vous, il y a des colonnes d'images à côté. Voilà, ce sont des serviteurs. Des servantes qui donnent du pain spirituel. Dès que vous êtes sur une estrade, vous êtes un serviteur qui donne du pain. Et je vous assure, un musicien, un membre du conseil d'administration, c'est caché, c'est vu, c'est pas grave ça. Mais dès que l'on donne quelque chose, que Dieu nous donne d'être honnête. Dieu attend l'honnêteté. Cette honnêteté par rapport à la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, tu me parles, j'entends ou j'entends pas. Parce que des fois, c'est facile de dire, oh, le pasteur, il n'était pas dans le coup, moi, j'ai rien reçu. Ben, c'est sûr, si votre cœur est fermé, ça va pas aller loin. Parce que ça aussi, c'est malhonnête. Hein. Ça peut arriver qu'on ne soit pas à fond dans le coup, comme on dit. Est-ce que ça peut arriver qu'un pasteur est épuisé, fatigué? Est-ce que ça peut arriver qu'un pasteur soit pas dans le coup? Ben oui, ça peut arriver. Ne vous offusquez pas parce qu'un jour la prédication, elle est pas peut-être ce qu'elle aurait dû être. Mais mes frères et sœurs, même si la prédication n'a pas été ce qu'elle aurait dû être parce que le pasteur est fatigué, ce qui peut arriver, il n'empêche que je peux quand même me nourrir moi-même. Oui ou non? Et passer du temps béni dans sa présence et recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais c'est évident. Et c'est ça l'honnêteté. Seigneur, je veux être honnête, tu m'appelles à donner du pain, tu m'appelles à faire du bien, moi je vais aller à l'église. Il y a une dame qui m'appelle l'autre jour, je ne sais même plus d'où elle était, je ne connais pas. Elle m'appelle, elle me dit, monsieur Gaulle, je ne vais plus à l'église, ça ne sert à rien. Et tout. Je dis, mais recevez, et vous allez voir que quand vous recevrez, vous aurez envie de donner. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Plus notre cœur est rempli, plus... On ne peut pas faire autrement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien sûr, si vous venez toujours vide, en disant, j'ai pas, même pas. Mais, mes frères et sœurs, tenons-nous devant Dieu. Pas pour prier. Une fois qu'on a prié, se tenir devant Dieu pour être avec lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et quand je reçois, et quand je reçois, et quand je reçois, ben écoutez, ça peut pas être autrement, je vais devoir, même sans m'en rendre compte, je vais donner. Et si vous ne donnez pas, eh bien humiliez-vous. Mettez-vous devant Dieu, dites, Père Seigneur, j'ai honte, je suis tout le temps là comme une sangsue, que les gens me donnent, j'ai besoin de ci. Moi, je veux être en bénédiction. Quand Jésus reviendra me chercher, moi, je veux faire partie de ces gens qui ont du pain à donner. Quelle sorte de chrétien êtes-vous? Quelle sorte de chrétien voulez-vous être? Êtes-vous un chrétien qui vous tenait devant Dieu? Je vais vous poser une question sérieuse, mais archi sérieuse. Ne répondez pas, mais répondez au Seigneur, dans votre cœur. Ce matin, est-ce que vous avez prié pour votre pasteur? Ne répondez pas haute voix. Est-ce que vous avez prié pour le pasteur de passage? Peut-être pas assez. Est-ce que c'est écrit de prier pour les pasteurs? Est-ce que c'est un devoir de prier pour les pasteurs? Oui, mais tous les jours on devrait prier. Si Paul a dit « priez pour moi », laissez-moi vous dire, si vous ne priez pas, mais vous faites un truc de grave. Est-ce que ce que je vous dis c'est un scoop ou est-ce que franchement on le sait? Ben voilà, c'est comme ça que l'Église est enrichie. Dieu m'a placé, moi je prie tous les jours pour Michael, pour Laure. Tous les jours, je le dis pas ça pour me jeter des fleurs, tous les jours pour les pasteurs que j'ai formés, et ça commence à faire. Tous les jours, j'ai un moment de prière pour Michael, tous les jours, pour que Dieu le bénisse. Est-ce que c'est normal? Oui, mais je le fais parce que je crois que c'est quelque chose que Dieu veut que nous nous soutenions les uns les autres. Tu peux en faire autant, hein? Mes frères et sœurs, un chrétien, il doit être honnête. Et Dieu condamne l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est que je suis double. Et c'est pas bon quand Jésus dénonce l'hypocrisie. Je dois être honnête. Seigneur, je veux apprendre à être honnête. Est-ce qu'on peut développer cette honnêteté dans notre cœur? Bien sûr. Je suis vrai. L'autre texte, mais c'est juste après, on va se terminer avec celui-là. Mais faites-le vous-même. Vous n'avez pas besoin que des pasteurs pour veiller sur vos âmes. On vient de lire en introduction, veillez attentivement sur votre âme tous les jours. Le texte, on n'a pas le temps de tous les voir. Si vous me réinvitez, je ferai la suite. Si vous me réinvitez, bien sûr. Matthieu 25, c'est la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents? Dieu confie à tous des capacités. À l'un 3, à l'autre 2, à l'autre 1. On n'a pas tous reçu les mêmes talents. C'est d'accord? Il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. D'accord? Oui ou non? Il y a des gens, avec un talent, ils sont dépassés. Bon, c'est pas grave, ça. On voit que Dieu tient compte des capacités. D'accord? Il y a des gens, ils peuvent faire plusieurs choses, c'est bien. Mais Dieu regarde pas tellement la quantité de talent qu'il peut nous accorder en fonction des possibilités. Dieu regarde à la fidélité. Et c'est bien, je vous ai entendu prier, je vous ai entendu louer, je vous ai entendu présenter les chants, c'est bien. Vous avez évoqué la fidélité du Seigneur. Mais dans cette parabole, Jésus parle de notre fidélité. Parce que si nous nous attendons à ce que Dieu soit fidèle, et nous savons qu'il le sera, il attend la fidélité. Dans Matthieu 25, donc, il donne des talents. Les deux premiers serviteurs n'ont reçu des talents différents, mais ils les font valoir. Donc, ils reçoivent la même récompense. Et le troisième serviteur, au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu allais me dire qui maçonne, tu n'as pas semé, qui amasse, ou tu n'as pas vanné. Voyez, lui aussi, il y a des gens qui savent parler, qui savent même faire des paraboles, oui. Il y a des gens, ils savent discuter. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et regardez la conclusion, je répète parce que je crois que les chrétiens ne comprennent pas. C'est Jésus, le Seigneur Jésus, devant qui on va comparaître bientôt, qui parle. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le contexte, c'est la paresse. Un chrétien paresseux. Vous savez, comme j'étais catholique, moi quand je me suis converti, j'ai souri, parce que j'ai étudié la doctrine, je ne savais pas que je serais pasteur, mais j'ai étudié les doctrines. Et j'ai vu que dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle les 7 fameux péchés capitaux. Vous savez, bon, ça fait sourire tout ça. Et dans les 7 péchés capitaux, il y a la paresse. Et moi, j'ai dit, ils exagèrent. C'est ridicule. Mais le temps a passé. Et je me suis rendu compte combien la paresse était vraiment révélatrice d'un problème de communion avec Dieu. Et si vous êtes paresseux, c'est grave, mais il y a un double problème. C'est parce que vous n'avez pas compris que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est un honneur. Là, on parlait de la sainteté. La sainteté, pour se sanctifier, il faut se consacrer. C'est une corvée ou c'est un honneur d'obéir à Dieu? Ben là, et c'est là, il faut répondre. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas tromper ma femme. Vous savez, moi, depuis 33 ans, j'ai tellement entendu de trucs. Vous savez, les choses que Dieu demande, c'est une grâce. Tout est une grâce. Et on pourrait dire, mais c'est grave, alors ça veut dire qu'on est sauvé par les œuvres. Non, mais ça veut dire que quand on ne fait pas d'œuvres, c'est la preuve qu'on n'a pas de communion avec Dieu. Et les chrétiens... Vous le vérifierez, au cas où vous auriez un doute sur mes propos, vous regarderez les 7 textes et vous vérifierez que c'est adressé qu'à des chrétiens. Des chrétiens qui sont hypocrites, des chrétiens qui sont légers, des chrétiens qui ne flashent pas sur la sainteté, qui s'imaginent que Dieu est bon, comme Dieu est bon, tout le monde va s'en sortir. Il y a beaucoup de chrétiens. C'est rentré dans la mentalité. La sécurité éternelle, c'est même rentré dans le mouvement. Il y a des pasteurs chez nous, je vous le dis, mais c'est archi grave. Il y a des pasteurs chez nous qui conçoivent la sécurité éternelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Moi, je peux vous dire que si vous avez lu la Bible une fois, simplement, vous avez compris que le salut, on peut le perdre. Et croire qu'on ne peut pas perdre le salut, moi, je vous assure, si vous faites partie de cette catégorie, je vous conseille de prendre rendez-vous avec le pasteur, de vous mettre à genoux et de relire la Bible, parce que s'il y a bien un sujet dans la Bible qui ne prête à aucune confusion, c'est bien celui-ci, un chrétien peut perdre le salut. C'est un sujet qui est développé des centaines de fois dans le Nouveau Testament. Des centaines de fois. Donc, mes frères et sœurs, oui, je veux faire valoir le talent. Seigneur, tu m'appelles à prier. Je ne sais pas faire grand-chose. Mais il y a une réunion de prière à Moissac. C'est quand la réunion de prière? Bon, eh bien, Seigneur, tu vois, Je vais me débrouiller cette heure-là, je vais prier chez moi, mais je vais aussi faire valoir ce talent. Est-ce que c'est indiqué quelque part que Dieu est dit d'une manière catégorique dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, ma maison sera appelée une maison de prière? Eh bien, je vais faire valoir ce talent. Tu m'attends à la prière, eh bien, je vais y aller. Quand on veut quelque chose, on le fait pas? C'est à quelle heure le mardi? 15h. Merci, ma soeur. Si mardi à 15h, je veux aller, je sais pas moi, dans un centre commercial pour visiter quelque chose, est-ce que je vais pas trouver une heure pour y aller? Soyons sérieux. Si quelque chose me fait plaisir, je vais m'arranger. Je vais, même si j'ai prévu quelque chose d'autre, je vais pas l'annuler pour y aller. Soyons sérieux. Soyons honnêtes devant Dieu. Donc, on le sait. Il y a des choses comme ça. On devrait demander. Alors, c'est pas moi, je vous dis ça parce que c'est inévitable qu'un chrétien, dès qu'un pécheur se convertit, il doit devenir un intercesseur. C'est même pas la peine d'en parler de ça. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est le seul nom, écoutez bien, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que Jésus donne à l'Église. Donc, s'il y a une chose que vous pouvez faire, c'est prier. Alors, même si vous n'êtes pas encore courageux pour prier à haute voix, vous pouvez venir et prier et dire amen avec ceux qui prient, dire Seigneur, oui, il prie pour les frères des pays, les chrétiens qui sont en Israël, pour Monsieur Elba. C'est pas facile d'être missionnaire en Israël. Vous croyez que Robert Zakia qui est au Liban, c'est facile? Eh bien, je vais m'informer, tiens. Je vais demander à Monsieur Fontaine la liste de tous les missionnaires. Et je vais prier pour eux. Est-ce que c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu, ça? Ah ouais, les gens, ils sont même pas capables de dire, ah, il y a un missionnaire en Israël. Moi, j'ai été missionnaire. Je sais ce que c'est. D'être soutenu. Soyons honnêtes, parce que Dieu, c'est pas moi. Moi, bien sûr que, mais moi, je suis comme porte-parole. Moi, je répète ce que Dieu a dit. Mais Dieu attend que vous soyez un intercesseur, un talent, faire valoir. C'est pas une grâce d'avoir une voix? Vous savez combien il y a de millions de muets sur la terre? Sérieusement, vous seriez muets. Muets. Il y a des gens qui sont muets dans nos églises. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Ce n'est pas une grâce, les sœurs, de parler. Ce n'est pas une bénédiction. Mes frères et sœurs, vous seriez muets et Dieu vous guérirait. Qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez muets de naissance. Et tout d'un coup, Dieu vous redonne l'usage de la parole. Qu'est-ce que vous feriez? Allez, répondez-moi. Qu'est-ce que vous feriez? Vous loueriez pas le Seigneur? Vous diriez pas, au moins, à mi-voix, Seigneur, merci de m'avoir guéri. Un peu plus fort? C'est une grâce d'avoir une voix. Vous savez, moi, il y a 3 ans, j'ai fait un AVC bithalamique. Je pouvais pas parler. Juste quand Michael est arrivé, vous voyez, je l'ai bien accueilli. Je pouvais pas parler. J'étais paralysé. Et pendant 3 mois, j'y voyais pas. Presque pas. Et la neurologue m'a dit, Monsieur Gros, vous ne prêcherez plus. Moi, je me suis dit, bon, ça, c'est elle qui parle. Et j'ai remercié Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu veux plus que je prêche, c'est pas grave. Je t'obéirai quand même. Voilà, tu me reprends pas. Moi, ça m'est égal. Je t'obéirai. Ça, c'est que Dieu savait que c'est vrai. Mais pouvoir parler, c'est une bénédiction quand vous pouvez pas parler. Je sais ce que c'est. Quelle grâce de pouvoir parler. C'est un talent. Et Dieu nous attend fidèles dans l'évangélisation. J'ai parlé de la prière, mais peut-être dans le témoignage, dans le service. C'est ça. Et je le fais de bon cœur. Je suis pas tout le temps en train de dire, oui, mais je peux pas. Moi, je suis célibataire. J'en ai marre. Je souffre du célibat. J'aimerais être marié. Et ceux qui sont mariés, oh, j'en ai marre. Moi, avec mes 3 gosses, j'en peux plus. Mais j'entends ça tout le temps. Ça vous fait rire, mais moi ça me fait pas rire, je vous assure, parce que c'est grave. Que vous soyez marié, que vous soyez célibataire, vous pouvez servir le Seigneur. Vous vous imaginez, quand vous allez passer devant Dieu, lui dire, écoute Seigneur, tu vois, j'étais célibataire. Vous avez vu quand on a lu tout à l'heure, cet homme, il a bouche. Ne vous imaginez, parce que vous pouvez discuter avec Monsieur Fontaine, vous pouvez discuter avec moi, et dire, oui Monsieur Gau, vous avez prêché ça, mais si vous étiez à ma place, écoutez-moi. Ce que Dieu vous demande, vous pouvez le faire. Régler ce problème, sinon quand vous allez passer devant Dieu, vous aurez des gros problèmes. Et moi j'ai envie que quand les chrétiens que dans tous les cas, j'aurais eu la responsabilité. En tous les cas, ce matin, c'est ma responsabilité. Vous êtes sous ma responsabilité ce matin. Moi, j'ai envie que pour vous, ça se passe bien. Et que vous puissiez veiller attentivement sur votre âme. Parce que ceux qui ne veillent pas et ceux qui ne prient pas ne seront pas prêts. C'est pas moi qui le dis. On termine avec ce texte. Je vous encourage à prendre ces textes, puisque tout le monde a presque Internet. Et si vous n'avez pas Internet, demandez à quelqu'un qui l'a, qui vous imprime les 7 textes. C'est vite fait. C'est vite fait. Quand on veut une recette, si vous voulez savoir quelle est, comment on fait un gâteau au potiron, allez vite. Allez hop. Marmiton.fr, tac, tac. Le gâteau au potiron. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien là, c'est pareil. Regardez. C'est des choses, c'est sérieux. Vous savez, c'est sérieux. Le potiron, c'est pas grave. Le potiron, bon, c'est Dieu qui l'a créé. Je veux dire, c'est, merci Seigneur, moi j'aime le potiron. Mais si vous mangez plus de gâteau au potiron jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas grave. Mais si vous allez en enfer, moi je trouve que ça c'est grave. Parce que vous n'aurez pas veillé. Regardez dans Matthieu chapitre 21. Luc chapitre 21. Ce sont des choses sérieuses. Moi je vous assure, lisez la Bible avec sérieux. Tous les jours de votre vie. Tous les jours, prendre 3 ou 4 versets. Moi, ce matin, pour mon culte, j'ai lu 1 ou 2 versets. Voilà. C'était mon morceau de pain. Et j'ai prié pendant 1 heure ou 2 par rapport à ces versets. Parce que j'allais venir vous voir. Et même si j'avais été tout seul, si ça avait été un autre jour. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus, Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Vous voulez être debout quand Jésus va revenir? Est-ce que vraiment vous voulez être debout? Eh bien, veillez et priez en tout temps. En tout temps, ça veut dire tout le temps, 24 heures sur 24. Non, en tout temps, ça veut dire quand tout va bien, quand tout va mal. En tout temps, ça veut dire, voilà, aujourd'hui, je passe une bonne journée, eh bien, je te prie. Demain, c'est plus difficile, la route, elle monte, eh bien, je prie quand même. C'est ça, en tout temps. Eh bien, je vais le faire. Je vais le faire de tout mon cœur. Eh bien, quand Jésus reviendra, vous serez debout. Si vous ne veillez pas, et si vous ne priez pas, ou si vous le faites du bout des lèvres, quand Jésus reviendra, vous allez rester là. Et je peux vous dire qu'après l'enlèvement de l'Église, moi, je vous avoue que j'ai pas envie d'y être. Parce que quand vous voyez comment la colère de Dieu va se manifester sur la terre après l'enlèvement de l'Église, moi, je vous assure, il vaut mieux avoir déguerpi, croyez-moi. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que vous êtes sérieux avec Dieu? Est-ce que vous êtes honnête? Comment vous vivez la sainteté? Comment vous êtes avec le premier point qu'on a développé? Vous allez sortir, le culte va terminer. Vous allez rentrer chez vous. Alors, on va vaquer à nos occupations. Est-ce qu'on va veiller? Ça, c'est bon. Non, ça, c'est pas bon. Ça, la télé, ah, mais non, ça, je le regarde pas. Je la regarde. Mais je peux vous dire que je ne regarde que des choses saines. Dès qu'il y a un mot grossier, je peux vous dire que c'est terminé. Pourquoi? Parce que je crois que quand on a le Saint-Esprit dans son cœur, il me semble qu'on est repris et vite s'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et si vous n'êtes pas repris, quand vous voyez quelque chose de malsain, vous n'êtes pas en bon état. Moi, je vous le dis. Mais tout ça, ça peut se corriger parce que Jésus est assis sur le trône de la grâce. Il pardonne, il guérit. Il est encore assis sur le trône. Alléluia. Il est assis sur son trône et bientôt, il va se lever et il va fermer la porte. C'est écrit, c'est le dernier texte dans Luc. Quand le maître de la maison se sera levé, et qu'il aura fermé la porte, alors voyez un peu comment les gens sont compliqués, ceux qui sont dehors voudront rentrer. C'est écrit. Ils taperont, mais Seigneur, on a mangé avec toi. Tu te rends compte? On a mangé avec Jésus-Christ. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Vous tous qui commettez l'iniquité. Donc c'est clair, mes frères et sœurs, soyez sérieux avec votre âme. Soyez sérieux avec votre âme. Votre âme, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Votre bagnole, elle vous appartient. Vous l'avez achetée? Oui, c'est vrai. Votre voiture, elle vous appartient. Votre maison, elle vous appartient. Vous êtes propriétaire. Elle est à vous, la maison. Oui ou non? Mais si elle est qu'à vous, le temps de sur la terre, elle est à vous. Mais votre âme, elle ne vous appartient pas. Votre âme, elle appartient à Dieu. et un jour, elle nous sera redemandée. Alors, il vaut mieux que ça se passe bien. Vous n'avez pas envie d'entendre entre bon et fidèle serviteur. Vous n'avez pas envie d'entendre un truc comme ça. Moi, j'ai envie d'entendre que ça. Moi, que Dieu me reprend dans 5 minutes, que je me tue sur la route rentrant, mais ça m'est égal. Que je meure dans 2 minutes, paf, que je tombe dans un arrêt cardiaque là, ou dans 30 ans, mais ça m'est égal. Mais je m'en fiche complètement. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être fidèle jusqu'à la fin. Mais c'est vrai ce que je dis. Moi, Dieu peut me reprendre, il a failli le faire. Ça n'a pas bien marché, mais il a failli le faire. Mais moi, je peux vous dire que si Dieu me... Moi, ça m'est égal. Mais que j'entende quand je passerai devant lui, entre bon et fidèle serviteur. Moi, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Alors, on va fermer les yeux. Et il faut répondre. Et il faut répondre à cette prédication. Dans votre cœur, répondez-lui. Vous savez, il voit déjà peut-être même comment vous lui avez répondu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants ?